Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Produit par Binge Audio.
Chers auditeurs, salut. Je vous parle depuis le sous-sol de Binge Audio, qu'on appelle entre nous les égouts, où il fait bien frais. Tout l'été, j'ai lu, j'ai trié la bibliothèque et je me suis plongée dans les nouveautés pour vous préparer quelques très beaux épisodes pour cette nouvelle saison. En attendant que ça démarre, pour vous faire patienter, avec l'équipe des couilles sur la table, on vous a sélectionné quelques classiques de l'émission. Alors bonne écoute et rendez-vous le 14 septembre pour le premier entretien de la saison.
Sans doute comme vous, comme beaucoup, je suis extrêmement angoissée par la catastrophe écologique planétaire que nous sommes en train de vivre. Je regarde les forêts brûler, les glaciers fondre, les insectes disparaître, les océans se vider. Ce que je ressens d'abord, c'est un immense accablement. À quoi ça sert de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes si on n'a même plus de planète habitable ? Lutter pour que le monde reste vivant et vivable, c'est aussi important que les luttes féministes et que toutes les luttes d'émancipation. Alors dans cet épisode, on s'intéresse aux liens qui existent entre le patriarcat et la catastrophe écologique, entre l'oppression des femmes et la destruction du vivant. On en discute avec mon invitée dans la longue conversation que vous allez entendre. Elle s'appelle Jeanne Burgard-Goutal et elle se passionne en philosophe pour les théories et les pratiques de ce qu'on appelle l'écoféminisme. C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la conversation ce qu'on entend par écoféminisme et comment ça peut nous aider à penser toutes ces questions ensemble.
Faire ce lien de causalité, c'est une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre.
Jeanne Burgard-Goutal est agrégée de philosophie, qu'elle enseigne dans un lycée marseillais. Et elle est aussi professeure de yoga et elle a fait plein d'expériences différentes dans sa vie. Bonjour, Jeanne Burgard-Goutal.
Bonjour, Victoire.
Alors, ça fait 10 ans que vous vous passionnez pour les théories et pour les pratiques écoféministes. Vous avez passé les 4 premières années de cette période-là à vous perdre dans les méandres des textes, parce qu'en fait, il y a une énorme bibliographie écoféministe qui existe, dans des livres, dans des fanzines, dans des recueils, des anthologies, etc. Vous avez essayé d'établir des tableaux comparatifs entre différentes autrices pour essayer de comprendre les tendances, les sous-courants et tout ça. Et puis après, vous avez tout laissé tomber pour décider d'aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis. Et de toute cette décennie, vous en avez tiré un livre qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique » au pluriel. C'est publié aux éditions L'Échappée. Et c'est un livre que moi j'ai trouvé vraiment passionnant à lire parce qu'il est super accessible. On vous suit, c'est-à-dire que vous êtes vous très présente comme autrice. Vous partagez très généreusement vos doutes et votre perplexité et vos désillusions parfois, mais aussi vos émerveillements et la façon dont vous changez. Donc vous vous livrez beaucoup et en même temps on apprend plein de choses sur la pensée écoféministe. Donc voilà, je recommande vraiment la lecture. Merci. De ce livre-là. Vous racontez que vous n'avez pas fait que lire ou que réfléchir, vous n'êtes pas resté enfermé dans la bibliothèque, vous êtes aussi allé par exemple faire des rituels dans le bois de Vincennes.
Oui.
Vous êtes allé en stage chez Vandana Shiva, dont on peut dire qu'elle est un peu la star de l'écoféminisme au nord de l'Inde. Vous avez fait des campements en non-mixité chez Sylvie, qui est une sorte de sorcière dans les Cévennes. Et voilà, votre but avec ce livre, c'est de faire découvrir toutes ces théories et ces pratiques écoféministes, de vous demander ce que vous, ça vous a fait et comment ça peut être utile au monde. Alors, je ne vais pas vous poser cette question piège de qu'est-ce que l'écoféminisme, parce que vous passez une partie du livre à expliquer que, en fait, on ne peut pas répondre frontalement à cette question-là, vu que ce n'est pas du tout un dogme qui est figé. Mais quand même, pour les auditoristes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est bien de définir quelques bases, de dire par exemple que l'écoféminisme, ce n'est pas l'addition de l'écologie d'un côté et du féminisme de l'autre. On peut très bien être très écolo sans être féministe, on peut très bien être féministe sans être écolo, mais on peut aussi être écolo, oui, féministe, et ne pas être écoféministe.
Oui. Tout à fait.
C'est-à-dire, concrètement.
Alors, c'est-à-dire, alors après, ce qui fait vraiment le plus petit dénominateur commun de toutes les approches écoféministes, c'est qu'elles ne se contentent pas de critiquer d'un côté la crise écologique et le capitalisme, et puis d'un autre côté la domination masculine ou le patriarcat, mais que vraiment le fondement de l'écoféminisme, au-delà de sa diversité, c'est la conviction qu'il existe des liens indissociables entre la domination sur les femmes et la domination de la nature, ou pour le dire autrement, entre le patriarcat et le capitalisme écocide, ou voilà, selon les causes qu'on assigne à ces formes de dégradation.
Donc écocide qui détruit la nature, une forme de système économique qui se base sur l'exploitation de la nature, sur sa destruction, sur la non-préservation des ressources naturelles, etc.
Exactement. Et après, du coup, ce qui va différencier les écoféminismes ou faire la richesse du mouvement, c'est notamment la diversité d'approches sur qu'est-ce que c'est ces liens entre domination des femmes et domination de la nature.
Concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est l'idée qu'on viole la terre, l'idée que le patriarcat, les hommes, enfin la violence masculine s'exerce sur les femmes comme elle s'exerce sur la nature, sur la terre, sur alors, les forêts, etc.
Alors ça, c'est une des premières manières de faire le lien. Donc ça serait un lien qu'on pourrait appeler une analogie. C'est de dire la façon dont les femmes sont dominées est analogue à la façon dont la nature est dominée. On retrouve des mécanismes semblables. Et donc, il y a tout un. Cette idée est développée dans un certain nombre de textes écoféministes et de mouvements aussi. Donc, d'analyser à quel point ce seraient des mécanismes qui se ressemblent. Et par exemple, qu'on peut désigner par les mêmes termes. On peut, à la fois pour la condition féminine et pour la condition des ressources naturelles ou des espèces non humaines, parler de domination, d'infériorisation, d'exploitation ou de surexploitation, d'oppression, d'évaluation ou dévalorisation. Donc il y a déjà ce premier lien qu'on peut faire, qui est un lien d'analogie. Et on trouve ça dans pas mal de slogans. Par exemple, le slogan « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête ». Là, il y a la position d'une analogie entre les femmes et la terre. Après, il y a d'autres modèles qui vont aller plus loin que l'analogie, en essayant d'expliquer qu'il y a des liens de causalité, donc ils peuvent fonctionner dans un sens ou dans l'autre. Soit on peut dire que la domination patriarcale est la cause d'une sorte de schéma psychique qui habitue, de schéma psychique et social en fait, qui habitue à la domination d'être plus vulnérable, et que par dérivation en fait, ça va être la cause d'un rapport à la nature fondé sur cette attitude dominatrice. Ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les écoféministes qui ont été inspirées par l'écologie sociale de Murray Bookchin, qui est fondée sur cette idée-là, en fait. Dans l'écologie sociale, il y a l'idée que si on domine la nature, ça vient d'un modèle qui s'est d'abord forgé au sein des sociétés humaines.
Entre hommes et femmes.
Alors, lui, il dit entre maître et esclave, mais donc la réinterprétation féministe ou écoféministe de cette idée, c'est de dire entre maître et esclave, et le premier rapport maître-esclave, c'est le rapport homme-femme.
Donc de dire, par exemple, j'ai le droit d'utiliser le corps de ma femme, puisqu'elle est ma femme. J'ai le droit de la violer, de la vendre, de la battre, etc. Tout comme j'ai le droit de vie et de mort sur les animaux qui m'entourent. J'ai le droit d'être propriétaire, j'ai le droit de déforester, j'ai le droit de tuer tous les bisons quand les colons arrivent en Amérique, ce genre de choses.
Oui, alors je ne sais pas si quelqu'un se dit j'ai le droit ou pas, mais en tout cas, faire ce lien de causalité, c'est une des manières d'expliquer comment l'un a pu générer l'autre. Après, on peut faire le lien de causalité dans l'autre ordre.
Donc, on domine la nature. Donc, comme on apprend à dominer la nature, on apprend à dominer tout un tas d'autres catégories considérées comme inférieures.
Exactement. Et non seulement à dominer, mais à inférioriser. Par exemple, là, c'est une idée qu'on trouvera plutôt chez les écoféministes inspirées par Simone de Beauvoir. Chez Simone de Beauvoir, il y a vraiment une analyse selon laquelle, en fait, l'être humain ne deviendrait réellement humain qu'en dominant ce qu'il y a de naturel en lui et hors de lui, en se démarquant de l'animalité et de sa propre animalité, et en s'arrachant exactement de son corps, de tout ce qu'il rattache à l'immanence, à la vie, donc à la mort, et de s'élever au-dessus de cette naturalité, et que par dérivation, là aussi, ça aurait généré un schéma qui va conduire à dominer les femmes et aussi le féminin, associé symboliquement à la nature. Donc là, il y a aussi l'idée que ce n'est pas une simple analogie, qu'il y a un rapport de cause à effet, mais cette fois, on prend ce rapport dans un autre ordre.
À l'inverse.
Voilà. Alors tout ça, bon, c'est des considérations très abstraites, on peut dire. Il y a beaucoup d'autrices écoféministes qui ont analysé ça de façon plus concrète, en montrant, par exemple, tout simplement, que de façon factuelle, et sans avoir besoin de partir dans des grandes théories bon, qui sont intéressantes aussi, mais qu'on observe que si on analyse la crise écologique en termes de justice ou injustice environnementale, donc en s'apercevant que tout le monde n'en est pas responsable au même titre et que tout le monde n'en est pas victime au même titre, mais qu'il y a des injustices dans la façon dont elle est vécue, dont elle impacte différentes catégories de population. Si on lit ça selon un axe féministe, on peut s'apercevoir que les dégradations environnementales touchent au premier chef les femmes d'une façon qui est souvent différenciée et plus dramatique que pour les hommes, pour différentes raisons, mais déjà tout simplement parce que à l'échelle mondiale, il y a une coïncidence entre pauvreté et féminité.
La majorité des pauvres sont des femmes.
Exactement.
On sait que ce sont elles qui vont être les plus touchées par le. Elles ont plus de risques de devenir des réfugiés climatiques, par exemple. Ou même, donc non seulement elles ont plus de chances d'être victimes de ce réchauffement, mais aussi les hommes ont plus de, comment dire, sont plus responsables que les femmes de cette destruction de la planète, ont des comportements moins écologistes, par exemple.
Oui, alors, il y a tout un ensemble, dans la construction des genres et dans les stéréotypes de genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements qui sont censés être virils, qui sont associés à un plus fort pouvoir de prédation sur les ressources naturelles. Bon, voilà, avoir une grosse voiture, manger beaucoup des gros beefsteaks saignants...
On a fait une émission là-dessus, sur le rapport à la viande et à la nourriture, ou prendre l'avion beaucoup plus souvent, ou décider qu'on a le droit de jeter ses déchets n'importe où,
faire une belle carrière qui, en fait, de fait, de façon indirecte, effectivement, va amener à prendre beaucoup l'avion, ou tout simplement à être à la tête d'une entreprise qui, même si nous-mêmes, on n'a pas les mains sales en tant que PDG dans un bureau, mais qui, de fait, est responsable d'une énorme prédation de ressources, d'une énorme exploitation de main-d'œuvre, etc. Donc dans les schémas de réussite, mais qui sont intégrés aussi par les femmes souvent. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, une sorte de réussite connotée virilement, ou en tout cas dans cet esprit de compétition néolibérale, va être reliée avec un certain nombre de comportements qui sont très prédateurs de ressources et de main-d'œuvre d'autrui. Et c'est vrai que beaucoup d'écoféministes ont remarqué. Donc il y a un slogan écoféministe qui dit première impactée, première mobilisée, EES. Justement à partir de ce constat que l'engagement politique écolo est très largement féminin et l'engagement politique des femmes est très largement écolo, ce qu'on peut très bien expliquer sans supposer, sans essentialisme, sans supposer que les femmes seraient naturellement plus sensibles, plus proches de la nature, etc., mais simplement par une construction sociale. Mais il y a beaucoup de données effectivement qui vont en ce sens.
Et ça se voit de façon aussi très concrète dans les luttes, dans les mobilisations. Donc vous, au début du livre, vous expliquez que vous essayez de comprendre les théories, tout ça. Bon, vous le faites. Et puis après, vous dites, OK, on ne va pas l'aborder par la question de la théorie, on va l'aborder par la question de l'histoire, de l'histoire de ces pensées et de ces mouvements-là. Est-ce qu'on peut raconter, par exemple, l'histoire des premières grandes mobilisations écoféministes qui se font contre le nucléaire? Et là, on voit bien que ces militantes-là, elles lient explicitement la question du féminisme et de la préservation de la planète, et que ce sont des mobilisations très, très féminisées, en fait.
Oui. Alors, les plus grandes mobilisations écoféministes du début du mouvement, elles ont lieu dans des pays anglo-saxons.
Aux États-Unis, en Angleterre.
Voilà, exactement. Alors, je vais commencer par les États-Unis, parce que c'est là que ça commence. Donc, en 79, il y a un accident d'une centrale nucléaire. C'est le plus important accident nucléaire. Voilà, exactement. Sur la côte est des États-Unis. Et en fait, à cette époque-là, le terreau politique aux États-Unis est très propice à la contestation. Donc, il y a à la fois des luttes des féministes du début de la deuxième vague du féminisme, donc, qui revendiquent ce qu'on appelle la body politics, donc le droit de libération de son propre corps. Il y a les Noirs américains qui luttent pour leurs droits civiques, il y a la protestation contre la guerre du Vietnam, la renaissance amérindienne, etc. Et en fait, à l'occasion de cet accident-là, il y a tout un ensemble de militantes souvent engagées dans différentes causes, mais sans faire le lien.
Donc pacifistes, féministes, voilà. Radicales, marxistes.
Ouais. Et puis engagés pour les droits civiques des Noirs américains, écolos, puisqu'il y a les premières prises de conscience écolo à cette époque, qui vont converger, organiser des conférences, organiser des manifestations, des grandes marches assez théâtralisées autour du Pentagone, etc. Et qui, pour la première fois, vont explicitement poser et théoriser ou commencer à théoriser les liens justement entre leurs différents engagements. Alors, à la base, justement, ce que racontent les militantes de l'époque, par exemple Inès Tracking, qui a contribué à la création du premier collectif écoféministe américain, donc qui s'appelle Women and Life on Earth, elle montre bien que c'était des positionnements théoriques qui étaient un peu... pas hasardeux, mais qu'il y avait une sorte de parti pris dans le fait de poser ces liens, dire c'est un seul et même modèle patriarcal, militariste, qui détruit les femmes, la vie des pauvres, la planète, etc. Et que c'est le souci qui les animait était moins un souci de rigueur théorique qu'un souci d'efficacité dans la lutte. Et ce qui a permis d'ailleurs des solidarités extraordinaires entre des femmes qui n'avaient pas les mêmes positions, par exemple sur l'essentialisme, etc. Mais ce qui passait au premier plan, c'était vraiment l'unité dans la lutte avant les chicanes vraiment théoriques.
Entre les différents mouvements. Et puis aussi d'inventer d'autres formes de lutte. Elles ont fait des choses d'une beauté, enfin d'une singularité vraiment... étonnantes. Elles ont commencé à tricoter, par exemple, des trucs autour du Pentagone, c'est ça, par faire des tricots géants, à faire des rituels de sorcières, à chanter, à danser, à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en fait.
Effectivement. Et c'est vrai que ça, c'est une constante de l'activisme écoféministe, c'est que ça emprunte souvent des formes d'action qui sont beaucoup plus inventives que faire une manif marchant dans la rue, voilà.
Ouais.
Et souvent, c'est des... Là, par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, c'est lié à un projet politique de... revalorisation de choses traditionnellement associées au féminin. Par exemple, typiquement, faire des broderies géantes autour du Pentagone ou tisser des énormes toiles d'araignée. On reprend un artisanat traditionnellement féminin.
La broderie, le tricot.
Voilà. Que beaucoup de féministes libérales ont voulu jeter aux oubliettes, en fait, en disant on a assigné les femmes à faire ça, nous, on ne veut plus, etc. Mais souvent, dans l'écoféminisme, il y a une sorte de manière de, non pas jeter, mais voir comment on peut se réapproprier et réinventer ce qui a été associé au féminin.
Et ce qui a été utilisé pour asservir les femmes.
Voilà.
Normalement, la broderie, c'était surtout n'apprends pas les mathématiques, ne fais pas d'études, n'apprends pas à lire ni écrire, mais apprends à faire des jolies broderies.
Il se trouve que la broderie, c'est aussi... alors, la broderie, c'est complexe, mais en tout cas, pour le tricot, c'est sûr. C'est que c'est quelque chose... C'est une activité qui est compatible avec l'éducation d'un enfant et les soins à un bébé. Donc, il y a aussi une sorte de logique dans le fait que cet artisanat, donc des choses manuelles qui prennent pas trop de temps à faire, qui prennent pas trop d'espace, aient été assignées ou choisies par les femmes, plus que des choses qui vont demander une longue concentration. Parce que de fait, ça c'est la division du travail reproductif, mais de fait, quand il y a un bébé petit, généralement ça va plutôt être la maman qui s'en occupe.
Mais il y a quand même cette idée chez les écoféministes de dire « Ok, vous nous avez méprisés pour tout ça, vous trouvez ça ridicule, pas digne d'intérêt, des trucs de bonne femme, quoi. Et ben nous, on va utiliser les trucs de bonne femme
dévalorisées dans ce monde construit au masculin pour lutter et pour imposer une nouvelle vision du monde.
Exactement. Utiliser ça ouais, comme outil politique, comme outil de liberté ou d'émancipation et de création. En fait, la créativité, la dimension artistique est essentielle dans l'écoféminisme. Là aussi, il y a un projet politique derrière qui est un peu de critiquer le scientisme de notre société, qu'on voit très bien dans l'éducation scolaire, par exemple, où on a l'impression qu'il faut faire des études scientifiques, etc.
Ah bah qu'on va gagner plus d'argent quand on fait des ouais, maths, de la bio et de la physique.
C'est plus
difficile, que c'est pour les gens plus intelligents,
voilà.
Que c'est plus important.
Alors que là, il y a vraiment une sorte de réappropriation du pouvoir créatif. Et dans l'autre mobilisation écoféministe autour du nucléaire, donc en Grande-Bretagne, le campement de Greenham Common, qui a commencé en 1981 et dont la dernière occupante est partie en 2000.
Donc il y a eu 19 ans d'occupation. Mais ça, cette histoire-là,
ouais.
Elle est incroyable. Moi, je n'en avais entendu parler que quand je suis allée à une mobilisation... contre le nucléaire à Bure, qui était un camp en non-mixité, d'ailleurs, féminine, et où je découvre l'histoire de ce truc. Ouais. Mais il y a eu des mobilisations avec 30 000 femmes.
Oui.
50 000 femmes. Enfin, c'est complètement fou, cette histoire.
Oui, oui.
Est-ce que vous voulez bien raconter ce que c'est Greenham Common ?
Tout à fait. Donc, en fait, ça commence en 1981. Il y a un projet de l'État britannique d'implanter des missiles nucléaires, enfin, de stocker des missiles nucléaires sur une base de la Royal Air Force sur le sol britannique, donc à Greenham Common. On est en pleine guerre froide, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, donc l'Europe est aussi utilisée comme terrain pour stocker des missiles nucléaires. Et au début, ça commence modestement, puisque c'est juste 36 militantes pacifistes et féministes qui vont à pied, voilà, qui convergent jusqu'à cette base et qui bloquent, enfin qui campent sur place. Et en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a à la fois un campement vraiment pérenne qui s'est installé, divisé en différentes sections selon celles qui voulaient avoir des pratiques spirituelles, celles qui défendaient plutôt un écoféminisme vraiment matérialiste. Donc il y a eu l'expérimentation d'un mode de vie complètement alternatif, puisque ça aussi c'est un axe fort de l'activisme écoféministe, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de militer pour l'avènement futur, on espère un jour du type
après
de société qu'on voudrait.
Après la révolution,
voilà.
C'est OK, ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Exactement. Donc il y a vraiment cette volonté d'incarner le plus possible les idéaux qu'on cherche à porter. Donc là, vraiment expérimentation d'un mode de vie alternatif, notamment dans les rapports de genre, puisque donc c'était des femmes qui étaient vraiment aux premières lignes, qui montaient les actions, qui réussissaient à trouer les grillages pour réussir à s'introduire.
C'était entouré par un grand grillage et c'était gardé par des soldats.
Voilà, ouais, c'est une base militaire.
Elles trouaient des petits trous dans les grillages, elles tricotaient aussi.
Oui.
Elles accrochaient des petits objets du quotidien, elles faisaient plein de...
Donc il y a des
transformations
photos...
Du grillage. C'est vrai qu'on voit ça, il y a des photos aussi.
Oui, il y a les photos qui sont vraiment improbables, effectivement, de cette base militaire, avec son aspect de masse militaire, quoi.
Donc viril aussi, parce
oui,
que c'est des soldats
de barbelés,
masculins qui sont dans cette attitude très rigide, comme ça, le montant en avant, que des mecs.
Oui.
Et en face, t'as des militantes féministes habillées, un peu comme des hippies, à la sauce années 80, en train de danser, en train de chanter, en train de leur faire des grimaces, en train de les provoquer, mais pas du tout dans un affrontement viriliste, justement.
Exactement.
Pas du tout comme on va vous attaquer à coups de pierre ou on va lutter, mais autrement.
Oui. Et ça, on voit bien sur les images et dans les récits que les policiers britanniques avec leurs casques super hauts et tout, ils savent pas trop comment réagir, en fait.
Mais ce camp-là, donc, qui réunit très très vite des milliers de femmes, il est vite décidé que ça va être un camp en non-mixité.
Oui.
Alors pourquoi et qu'est-ce que font les hommes pendant ce temps-là ?
Alors la non-mixité, c'est une pratique qui a été souvent utilisée dans le mouvement écoféministe et dans d'autres mouvements féministes et qui est souvent mal comprise. C'est-à-dire, on va souvent percevoir ça comme une exclusion des hommes, un rejet, comme si c'était forcément une marque d'hostilité. Dans le mouvement écoféministe, c'est une forme qui a souvent été utilisée un peu comme une sorte de cocon ou d'incubateur pour permettre aux femmes, voire les forcer, à adopter un certain nombre de comportements et développer des savoir-faire et des compétences qu'elle développerait pas s'il y avait des hommes. Par exemple, la prise de parole en public, le bricolage, tous les trucs qui demandent de la force, de la rapidité, ou assez spontanément, en fait, les choses se mettent en place dans un groupe mixte, voilà, un peu spontanément, les choses vont se mettre en place de façon genrée, assez traditionnelle.
Ouais, donc les mecs vont faire l'électricité, ils vont monter les chapiteaux, voilà. Ils vont aller couper du bois, ils vont faire je sais pas quoi, parce qu'on se dit, bon,
ça va aller plus vite, c'est plus facile.
Voilà. Et puis, ils ne savent pas cuisiner. S'ils ne savent pas cuisiner, les filles, elles vont peut-être plus se charger de la cuisine et tout. Mais ça, je l'ai vu dans le camp écoféministe à Bure.
Oui.
Il y avait plusieurs centaines de femmes. Bon, j'étais pas trop sceptique par rapport à cette histoire de non-mixité, mais vraiment, si jamais un jour vous avez l'occasion, chère auditrice, à participer à un événement en non-mixité, c'est quelque chose d'inexplicable, justement, là, qui n'est pas que intellectuel ou que théorique. C'est-à-dire qu'on se sent complètement différente, en fait. On a l'impression qu'on a la place de prendre sa place, justement.
Oui.
Et on est libéré du regard masculin. C'est très curieux comme. Et très libérateur, je trouve. Mais bref, donc à Greenham Common, c'est ce qu'elles ont fait.
C'est ce qu'elles ont fait.
Donc il y avait ces 30 000 femmes parfois.
Alors, 30 000, c'était que pour certains événements particulièrement. Enfin, des événements phares. Par exemple, la danse de sorcière pour le 1er janvier ou une sorte
embrace
de.
The base,
voilà,
quand elles ont décidé de faire le.
Voilà, chaîne humaine immense de, je sais plus, enfin, une dizaine de kilomètres au moins. Enfin, c'est quand même très grand, la circonférence de la base. Mais sinon, dans le roulement plus quotidien du camp, en dehors de ces événements phares, les hommes, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui étaient en couple.
Hétéro, qui voilà. Étaient mères de famille, qui
oui.
Étaient.
Et donc, l'organisation, c'était en fait un peu inverse par rapport à l'organisation des. Même dans les groupes militants qui se pensent égalitaires, etc. C'est que donc elles étaient au front, c'est elles qui affrontaient la police, qui étaient sur place, qui montaient les actions, qui se débrouillaient pour pénétrer sur la base, etc. Et les hommes, ils s'occupaient des enfants, ils les ravitaillaient, ils leur faisaient à manger, ils remportaient leur linge sale et puis ils ramenaient du linge propre. Ils assuraient toute la maintenance. Et c'est ça aussi que permet la non-mixité, c'est en fait d'explorer des rôles pour les femmes et pour les hommes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer d'habitude, quoi.
Pour revenir donc aux questions liées à la masculinité, à la place des hommes là-dedans, à la façon dont les écoféministes pensent ça, est-ce qu'il y a une théorie écoféministe de la masculinité ?
Alors, une, non.
Mais plein,
voilà. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est à la fois un peu frustrant et très passionnant, en fait, au sujet de l'écoféminisme, c'est qu'il n'y a pas de théorie unifiée. Donc, sur n'importe quel sujet, c'est un nid de débats, contradictions. En tant que philosophe, je trouve ça forcément hyper intéressant, en fait, de voir ces différentes positions. Sur la masculinité, alors déjà, on pourrait noter que il me semble que l'écoféminisme, c'est un des courants féministes qui est le plus clair sur le fait que les hommes ne sont pas l'ennemi, que ce qui est visé, c'est pas une catégorie, mais c'est une structure.
Et une façon de penser, et une façon de voir le monde, et des valeurs.
Et une organisation de la société, etc. Donc, en fait, il y a juste une sorte de proto-écoféministe, on va dire, Mary Daly, qui écrit « Oui, ne soyons pas hypocrites, notre ennemi, c'est pas le patriarcat, c'est les hommes. Le féminisme est le seul mouvement qui n'a pas le droit de désigner son ennemi, contrairement aux Black Panthers, etc. » Mais ça, c'est vraiment... c'est pas du tout représentatif du mouvement. justement. On trouve au contraire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de textes qui insistent vraiment lourdement sur le fait que le problème, ça, c'est pas les hommes en tant que tels. C'est la façon dont les rapports hommes-femmes se structurent dans une société patriarcale. Et donc, l'ennemi, si on veut, ou ce qu'elles vont incriminer, c'est toujours le patriarcat ou même plus précisément le patriarcat capitaliste, où d'autres vont parler du dualisme. Mais en tout cas, quand on parle de patriarcat ou de dualisme, ce qu'on désigne, c'est un système, c'est une structure. Et par exemple, quand on dit dualisme, on voit bien qu'on ne parle pas de masculinité ou de féminité, mais de la relation entre masculinité et féminité ou entre hommes et femmes. Et
donc de la même façon, relation hiérarchique, du fait que c'est structuré comme une différence et comme une hiérarchie.
Comme une sorte d'opposition, encore plus que différence, et de hiérarchie. En fait, elles insistent aussi sur l'idée que la masculinité, c'est une certaine construction qui traverse tout le monde, hommes et femmes. Que dans la construction sociale de ce que c'est qu'un sujet dans la pensée occidentale, il y a une sorte d'amalgame qui est fait entre simplement être un sujet et être un homme, avec toute cette ambiguïté du terme « homme », en fait, qui désigne à la fois l'être humain et à la fois le masculin. Donc ça veut dire que quand on parle de masculinité, on ne parle pas d'un attribut qui serait propre aux hommes en tant que sexe, mais on parle d'un ensemble de caractéristiques qui traverseraient aussi bien les hommes que les femmes, qu'on peut associer dans la construction majoritaire, on va dire, de l'imaginaire genré en Occident, à la compétitivité, la force, la transcendance par rapport à l'immanence, l'intellect ou la rationalité par opposition à la sensibilité ou aux émotions, l'esprit par opposition au corps, l'indépendance,
par
l'autonomie.
Par rapport à la dépendance et au lien.
Tout à fait. Et donc, leur idée, c'est que, de toute façon, ces caractéristiques-là, elles font un peu partie du pack humain dont tous les humains disposent, mais qu'on va les valoriser davantage que certaines caractéristiques associées à la féminité et au féminin, qui vont au contraire être dévaluées, ce qui n'est pas simplement une dévaluation un peu abstraite. En fait, on voit que, pour prendre un exemple très concret, dans le système scolaire, on voit bien que ce qu'on forme et ce qu'on cultive et ce qu'on éduque, c'est justement les caractéristiques qui composent aussi l'image de la masculinité, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. En fait, on fait du travail individuel, il faut être indépendant et autonome dans son travail, on fait très peu de travail collaboratif ou on éduque l'intellect, on fait des maths, du français, etc. On n'éduque pas du tout la sensibilité, la compréhension de ses émotions, les relations, etc. Donc tout notre système scolaire, pour ne prendre que cet exemple, on voit bien qu'il fabrique du masculin. Il fabrique des hommes, même avec les filles. Et que généralement, c'est plus tard, notamment au moment de la maternité, par exemple, que là, tout à coup, on se rend compte que, en fait, je croyais que j'étais un homme, mais, mais en fait, pas complètement.
Parce qu'on éduque les filles à grandir aussi dans ce monde au masculin neutre, où on dit, la neutralité, c'est ça, et en fait, c'est la masculinité.
Exactement. Il y a toute une analyse, justement, chez les écoféministes qui les amène à s'opposer à Simone de Beauvoir, ou en tout cas à nuancer son propos, parce que d'après elle, justement, le féminisme de Simone de Beauvoir est rentré dans le jeu de cette confusion entre être un homme, être un humain, être un mâle, être un sujet, être masculin, etc. Et à penser l'émancipation des femmes comme une sorte de masculinisation, enfin, ou en tout cas de vraiment sur ce modèle androcentré, en fait, devenir une femme libre, ça serait devenir un homme libre, en fait. C'est-à-dire développer son indépendance, son autonomie, nier ou réduire le plus possible le rapport avec l'immanence, la
avec
vie
le
quotidienne
corps,
et domestique, avec le corps.
Avec les règles, avec les hormones, avec le fait d'avoir des seins, avec le fait d'allaiter, et donc avec la
Exactement.
Maternité. En fait, il y a beaucoup de féministes qui ont accusé Simone de Beauvoir d'être contre la maternité, contre tout ce qui pouvait être les expériences spécifiquement féminines. Mais ça aussi, c'est en débat. J'ai lu des textes de Camille Fravometry, par exemple, qui est philosophe, qui reprend les textes de Simone de Beauvoir pour voir que, en fait, c'est un peu plus subtil que ça et tout. Mais oui, c'est une des critiques qu'on peut faire. C'est une des critiques qu'adresse l'écoféminisme aussi, de dire, en fait, il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes soient plus comme les hommes. Que ça paraît absurde, que je trouve résumé dans un slogan génial qui est « Qui voudrait une part égale d'une tarte cancérogène pourrie ?»
Oui.
Ça, c'est, ça dit tout, en fait. C'est-à-dire, mais en fait, on ne se bat pas du tout pour que les femmes ressemblent plus aux hommes. Et par exemple, ce qui donnerait concrètement, se battre pour que les femmes accèdent tout autant aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises, qu'elles gagnent autant, qu'elles aient autant le droit d'exploiter les autres, qu'elles aient autant le droit d'être violentes, qu'elles aient autant le droit de... Oui, de ne pas faire attention aux autres et tout ça, ce serait un échec en fait.
Oui, exactement. Ça, c'est ce que par exemple Vandana Shiva et Maria Miss, dans un ouvrage qui s'appelle Écoféminisme, appellent la stratégie de rattrapage. Et elles disent le féminisme libéral qui cherche simplement à améliorer la condition des femmes dans le système tel qu'il existe, c'est-à-dire en fait à permettre à certaines femmes privilégiées d'accéder aux ce qu'elles appellent les privilèges des vainqueurs, voilà, aux plus hauts postes de responsabilité, aux plus hauts salaires, etc. C'est une fausse route pour elles. C'est simplement essayer de rattraper ceux qui sont en haut de la pyramide, mais sans changer la structure de la pyramide elle-même. Et elles font une comparaison qui est très intéressante entre cette manière de voir l'émancipation féminine et la manière la plus habituelle de voir le développement. En disant, en fait, généralement, quand on parle de pays en voie de développement ou qu'on dit qu'il faudrait que les pays du tiers-monde se développent, etc., c'est toujours cette idée de stratégie de rattrapage. On garde en tête qu'il y a une pyramide. En haut, il y a les États-Unis. Au-dessous, il y a les pays européens. Et puis au-dessous, il y a ceux qui sont en train d'émerger, etc. Et le but, c'est que ceux qui sont en bas de la pyramide puissent monter en haut de la pyramide. Donc en suivant le même modèle, en se développant économiquement selon la voie qu'a suivi l'Occident. Et ce qu'elle dit, c'est que non seulement c'est pas possible dans un monde aux ressources limitées, en fait, c'est un leurre total et c'est une arnaque totale de faire croire que tous les pays pourraient devenir autant prédateurs de ressources et de main-d'œuvre
au nom
que
du développement économique quand même.
C'est exactement
des arguments de bah oui, mais bon, il y aura moins de personnes illettrées, les personnes seront plus riches, tout le monde aura accès à des ressources, il y aura moins de famine, etc.
Exactement.
Mais en fait, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Et c'est pas souhaitable.
Pour elle, c'est pas souhaitable non plus. Ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment une. C'est ça un des apports de justement de cette inversion ou en tout cas décentrement du point de vue qu'on trouve dans l'écoféminisme, c'est que on s'aperçoit qu'en fait, on a très souvent tendance à penser les choses implicitement du point de vue du haut de la pyramide. Donc, en faisant comme si c'était ça le modèle à atteindre, donc avec des valeurs masculinistes ou avec des valeurs occidentales. Donc, il y a cette forme de centriste, de regard androcentré ou ethnocentré, eurocentré, occidentalocentré. Enfin, ça peut s'appliquer dans différents domaines. Et il y a toujours chez elle un effort pour décentrer le regard en disant, mais en fait, qu'est-ce que ça fait si on pense les choses depuis un autre endroit, depuis l'Inde, depuis le Kenya ou depuis une femme pauvre, etc. Est-ce que vraiment... Et ça permet d'inverser les critiques et d'inverser qu'est-ce qui est désirable et pas désirable. Par exemple, dans l'optique postcoloniale, le modèle américain, bah, il fait pas tant rêver que ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui critiquent, et d'auteurs européens et d'auteurs non-européens, ou occidentaux et non-occidentaux, qui critiquent la façon dont l'Occident, le mode de vie moderne comme aliénant, etc. Donc ça montre que voilà, non seulement c'est pas possible que tout le monde accède en haut de la pyramide...
Mais c'est pas désirable.
Et que voilà, c'est pas désirable.
Et de même, quand on est une femme, on peut se dire, mais j'en ai vraiment, ça ne me donne pas du tout envie, la vie que mènent les hommes vainqueurs, la masculinité triomphante, donc qui est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir tout un tas de personnes à son service pour accomplir le travail domestique sans lequel la vie sur Terre ou en société n'est pas possible, c'est-à-dire avoir quelqu'un pour s'occuper de ton linge, des enfants, de la nourriture et tout ça, c'est pas du tout souhaitable et ça fait pas envie en fait. Si c'est pour devenir aussi seule, aussi violente, aussi... sans lien, aussi détaché que l'idéal de la masculinité, franchement, non merci.
Et en fait, on peut dire que c'est une sorte de réinterprétation de ce que ça veut dire être autonome. On peut avoir l'impression que être autonome, c'est effectivement réussir à se défaire de tous les liens communautaires, de tous les liens d'interdépendance, d'appartenance, etc. Et donc typiquement être ce vainqueur en haut de la pyramide. Alors qu'en fait, le vainqueur en haut de la pyramide qui ne sait pas faire sa bouffe, qui ne sait pas laver son linge, qui ne sait pas s'occuper de son enfant, etc., il n'est pas du tout autonome.
Donc, déjà oui, mais même si c'est masqué, c'est-à-dire que du coup ça donne cette illusion qu'ont plein d'hommes de « je n'ai besoin de personne, moi je me suis fait tout seul, je me débrouille très bien tout seul et tout », alors qu'en vérité non. Et puis je me dis d'un point de vue psychique, et ça c'est ce qu'a dégagé Carole Gilligan, qui est cette psychologue américaine, je l'ai interviewée dans un épisode précédent des Couilles sur la table. Elle dit que même d'un point de vue existentiel, c'est très pauvre et c'est complètement délétère. Enfin, c'est très triste aussi. C'est-à-dire que, comme être humain, on a besoin de liens forts et intimes et riches avec les autres. Et qu'en fait, la masculinité peut être un obstacle à ça, en réalité. De ne pas reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'affection, qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin d'en donner aussi. Qu'on a besoin d'être en lien véritable avec les autres et dans des liens égalitaires et pas que dans des liens de domination, en fait.
Oui, et de fait, chez beaucoup d'écoféministes qui se sont intéressés à la psychologie ou à une réinterprétation de la psychanalyse aussi, il y a cette idée selon laquelle les victimes du patriarcat, ce n'est pas seulement les femmes, que les hommes, même si c'est pas du tout de la même manière, ou les femmes qui ont complètement adhéré à ce modèle masculin, seraient elles aussi victimes de des déformations que ça fait subir. Et Val Plumwood, par exemple, donc une philosophe écoféministe australienne, qui a beaucoup analysé la façon dont justement les dualismes, et notamment le dualisme homme-femme ou masculin-féminin, opèrent et quels effets ça produit, elle montre qu'en fait, dans un dualisme, les deux côtés du dualisme sont déformés et appauvris. Une identité humaine complète, en fait, elle peut pas s'être formée uniquement sur ce modèle masculin, ni uniquement sur le modèle masculin féminin.
Parce que ça rend voilà. Tout le monde très très malheureux, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, l'assignation très fermée à un féminin qui serait, eh ben toi, ton destin, ça va être de t'occuper de tes enfants, de surtout pas gagner d'argent et d'être dans le care, sans arrêt, dans l'attention aux autres, dans l'affection, etc. Franchement, ça émancipe pas beaucoup, ça rend pas non plus très heureuse, quoi. En fait, ça peut donner, c'est les archétypes de la mère au foyer qui devient folle, de la mère abusive, de la belle-mère acariâtre, de la sœur frustrée. Enfin, bon, des tas de femmes auxquelles on n'a pas du tout envie de ressembler. Et contre lesquelles les féministes se sont révoltées pour ne pas être comme ça. Mais ça ne veut pas dire non plus devenir comme des mecs.
Non, justement, en fait, il y a cette recherche d'une sorte de troisième voie. Ce qu'elles analysent, c'est que, à partir de l'analyse de la condition féminine comme une condition aliénée, et notamment aliénée par, justement, l'association des femmes avec une nature perçue comme passive, qui va de pair avec l'assignation au foyer, au corps, etc., il y a plusieurs réactions possibles. Soit, du coup, on se dit qu'on veut que l'émancipation, ça serait de réussir de passer du bon côté du dualisme.
Du côté masculin. Donc on n'a plus rien à voir avec le corps.
Voilà.
On
ne
veut plus entendre parler ni de son...
Ni de
ses règles,
cycle, voilà.
Ni de ses seins, voilà. Ni de la maternité.
Ni de la cuisine, ni du ménage, ni de la couture, etc. Et bon, c'est... Évidemment, c'est un peu une caricature de Simone de Beauvoir, mais souvent, c'est la façon dont certaines écoféministes ont compris l'objectif de Simone de Beauvoir, s'arracher enfin à cette condition féminine aliénée et aliénante. Donc là, ça serait la première voie. La deuxième voie qui est adoptée par ce qu'on appelle le féminisme culturel
ou différentialiste,
c'est de dire, c'est vrai, de garder la structure dualiste en disant oui, il y a de la féminité, il y a de la masculinité, mais en fait on inverse la valorisation et donc on assume pleinement d'être des femmes et on revalorise les qualités féminines, l'empathie, le lien, le corps, la maternité, la sensibilité, l'attention, le soin au foyer, aux enfants, aux personnes, aux êtres vulnérables, etc. Donc là, c'est simplement garder la structure dualiste, mais au lieu de vouloir passer de l'autre côté, simplement inverser les jugements de valeur. Et beaucoup d'écoféministes sont au contraire en recherche d'une troisième voie, en disant en fait c'est le schéma dualiste lui-même qu'il faut changer. Donc il s'agit ni de adhérer pleinement et de simplement revaloriser symboliquement une féminité qui en fait est une construction quand même aliénante, ni de vouloir passer du côté masculin, puisqu'elle montre que là aussi, en fait, c'est une construction aliénante, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que le dualisme distord les deux côtés, donc il n'y a pas plus d'accomplissement à être un homme qu'à être une femme dans ce schéma dualiste qui, en fait, nous coupe en deux complètement. Et donc, l'idée est de restructurer la totalité du problème et de construire des identités souples ou des identités nomades qui dépassent complètement la structuration dualiste elle-même.
Mais c'est complètement vertigineux, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut réinventer toute notre façon de regarder le monde, toute notre façon de regarder les activités, toute notre façon de vivre.
Eh oui.
Du coup, ça m'amène à parler de comment ça a été reçu, toutes ces théories en France, et pourquoi on n'a pas vu, pourquoi en fait l'écoféminisme, ça a eu beaucoup plus de succès, ça a été beaucoup plus fécond et fertile aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays, dans plein d'autres pays en fait. Mm-hmm. Vous racontez les histoires des luttes, bon, on n'a pas le temps là de complètement développer, mais par exemple du mouvement Shipko en Inde, où ce sont des femmes qui sont mises à protéger les arbres de leur forêt. Plein de mobilisations en Amérique du Sud, plein de mobilisations au Kenya. Enfin, c'est vraiment très très riche. Et aussi, on n'a pas la transmission de toutes ces luttes-là. Mais en France, ça n'a pas pris.
Oui.
Et en France, on s'est tout de suite justement heurté à cette critique de l'écoféminisme qui est OK, en fait, vous essentialisez les femmes, vous les ramenez du côté de la nature. Dans les années 80, il y a eu par exemple Benoît de Groult, qui est une grande figure du féminisme en France. Donc j'ai la citation sous les yeux, qui dit « Le retour à la nature, c'est un piège à femmes. Renoncer dans un bel élan écolo aux gadgets ménagers, à la soupe en sachet, aux petits pots pour les bébés, c'est enchaîner la femme à son évier. » Et donc plein de féministes vont dire « Merci, mais en fait, vos retours à la nature, l'exaltation d'être en contact avec les cycles et tout ça. » Non, en fait, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce que le patriarcat a utilisé pendant des siècles et des siècles pour nous asservir. Mm-hmm. Alors, pourquoi en France ça a fait ça et pas dans d'autres pays? Ça, c'est la première question. Pourquoi en France, prononcer le mot nature, c'est piégeux?
En France, notamment dans la sphère féministe, c'est vrai que, comme vous l'avez indiqué, il y a un effort énorme qui a été fait pour dénaturaliser les femmes et la féminité. La phrase ultra célèbre de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », en fait, le verbe « naître », ça veut dire « être par nature ». Par opposition à être par construction sociale. Et ça, c'est un peu vraiment la ligne de force du féminisme français. Et c'est presque un truc intouchable. Et toutes les féministes françaises, Elisabeth Badinter, etc., enfin, les plus connues et peut-être les plus représentatives de quelque chose de français dans le féminisme.
Et puis influentes aussi, enfin, qui sont invitées à parler partout et tout. Elles sont complètement dans cette ligne-là. Enfin,
exactement.
Bon, Elisabeth Badinter on peut lui faire quand même plein de critiques et tout. Bon, elle continue à se dire féministe et tout, mais par exemple, elle a publié ce livre qui s'appelait « Le conflit entre la femme et la mère », où elle dit, mais en fait, dans les années 90, c'est-à-dire toutes ces personnes bien intentionnées qui expliquent aux mères qu'il faut revenir à l'allaitement naturel, utiliser des couches lavables, préparer toute sa bouffe bio et tout, c'est juste un moyen de réassigner les femmes à une position inférieure.
Exactement, elle appelle ça la Sainte Alliance des réactionnaires.
Voilà, donc être écolo, et c'est être faussement féministe.
Donc il y a à la fois le problème du concept de nature et à la fois le problème du mode de vie écolo. Puisqu'il y a effectivement le soupçon qu'un mode de vie écolo suppose de passer plus de temps aux tâches de subsistance et que les tâches de subsistance, c'est les femmes qui les font. Alors que, en fait, il n'y a pas que les femmes et les aspirateurs qui savent faire le ménage. Les hommes aussi en sont capables. Donc, il y a vraiment une question de répartition des rôles sociaux. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a vraiment bloqué pour l'expansion de l'écoféminisme en France. Et si on prend la pensée de Simone de Beauvoir, en fait, son concept de nature, philosophiquement, donc elle tient vraiment à un féminisme existentialiste. Donc comme l'existentialisme de Sartre, ils ont élaboré ensemble un certain nombre de théories. Et on peut dire que le deuxième sexe, c'est une sorte d'application au féminisme de l'existentialisme est un humanisme. Donc l'idée du sujet fondée sur la liberté, qu'on est ce qu'on se fait, etc. etc. Donc il y a vraiment ce concept de nature très existentialiste, et même si on remonte, qui repose sur un certain nombre de d'opposition vraiment héritée de la pensée des Lumières, qui est complètement dominant en France. Et on voit qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de débats, même pas forcément que autour du féminisme, mais dans la façon dont, dont les débats se posent dans la sphère médiatique française, tous ces trucs très philosophie des Lumières, l'universalisme républicain contre le communautarisme, etc.
Donc ça, c'est ça, revient toujours. Par exemple, sur les débats sur le racisme systémique et tout, on entend tout le temps ça. En fait, voilà. C'est pas possible, on ne peut pas le penser en France parce que non, en France, ce sont des citoyens libres et égaux et c'est l'universalisme républicain et tout ça. Donc il y a un poids des Lumières.
En fait, oui, c'est comme si on restait un peu. Enfin, ça commence à bouger, mais quand même, dans voilà, les penseurs qui ont le plus la parole médiatiquement, ils ont encore en tête ce logiciel Lumière. Avec des et plus exactement Kant, en fait, avec des oppositions nature, liberté, humain, animal, voilà, universel, particulier, etc. Et ça, en France, on a vraiment, vraiment du mal, en fait, à se débarrasser de ce logiciel-là.
Et qui inclut aussi une grande critique de la religion,
oui,
et de la superstition, et de l'irrationalité. Ce qui donne, par exemple, ce qui est étonnant quand on va à l'étranger, quand on est française, qu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai vécu quand je suis allée en Espagne ou aux États-Unis et tout, qui est que dans les mouvements écoféministes, par exemple, il y a une place assez grande qui est donnée au culte de la déesse, par exemple. Ou alors, on va se mettre à faire des rituels magiques. Ou alors, on va... En tout cas, il y a plus de place pour la spiritualité. Là où en France, c'est vraiment tabou, quoi. Ça nous fait ricaner, en fait. On trouve ça grotesque, dangereux. Ridicule.
Ouais.
Et vous, comment vous vous êtes débrouillée avec ça? Parce que vous avez une formation de philosophe, née en France, éduquée à l'université française, vous avez été nourrie avec tout ça. Et donc j'imagine que vous aussi, quand vous vous êtes frottée à cette spiritualité écoféministe, au grand récit du culte de la déesse, de parler au féminin en soi, d'accomplir des rituels et tout, ça a dû vous faire bizarre, non?
Assez, ouais. En fait, c'est vrai qu'on a une sorte de fétichisme de la rationalité en France, et voilà, notamment quand on fait de la philo, il y a vraiment une sorte de répartition, mais qui finalement est plus une arme que quelque chose de vraiment fondé, entre ce qui est censé être rationnel, c'est-à-dire fondé sur des procédures argumentatives, du raisonnement, on peut justifier par un discours construit ce qu'on avance, etc. Et il y a ça, et puis tout le reste serait irrationnel. Alors, moi, je pense qu'un des trucs qui m'a aidée, enfin, ou assouplie, c'est que je fais du yoga depuis longtemps.
Et que, du coup,
voilà.
Ouais. Mais non, on revient au lien entre le corps et l'esprit et tout. Oui. Que peut-être quand ton corps devient plus souple, ton esprit devient un peu plus souple aussi.
En tout cas, je me rends compte de plus en plus qu'il y a énormément de choses. Enfin, je trouve que la rationalité reste un garde-fou hyper important contre beaucoup de dérives, de n'importe quoi, de fake news, de voilà. Mais que, effectivement, remettre la rationalité à sa place en la relativisant par rapport à d'autres choses qu'on peut comprendre ou sentir par les émotions, par le corps,
par
la poésie, voilà, par l'intuition, bah finalement, c'est quand même en fait, voilà, un redosage ou un rééquilibrage qui est hyper sain.
Pour retomber sur nos pattes, on rappelle que la rationalité, c'est typiquement quelque chose qui est codé comme masculin.
Bah en tout cas, voilà, dans l'analyse écoféministe, il y a l'idée que dans les dualismes, et alors elle cite par exemple Aristote, chez qui il y a des citations par exemple qui montrent qu'il est tout à fait naturel, normal, juste, légitime, dans l'ordre des choses, que les humains dominent les animaux, les maîtres dominent les esclaves, les hommes dominent les femmes, parce que les seconds de la liste sont privés de rationalité, alors que les premiers, donc en gros les hommes humains de sexe masculin et hommes libres, maîtres, citoyens, quoi, eux, ils ont la raison. Et donc, la raison ou la rationalité, c'est ce qu'on appelle le logocentrisme, en fait. C'est cet usage du critère de rationalité comme justification d'une domination. Et on trouve ça vraiment dans dans la colonisation, dans le patriarcat, dans le spécisme, etc., de dire les Noirs ou les esclaves ou les femmes ou les animaux, ils n'ont pas la raison. Donc, en fait, ils ne peuvent pas être autonomes. On aimerait bien, mais tout seuls, ils ne sont pas capables de civilisation ou de rationalité. Donc, ils ont quand même besoin d'un maître pour les guider, les prendre en charge, les civiliser. Donc, c'est vrai que cette idée de rationalité, en fait, elle est... là aussi, il y aurait plein de fils à démêler, parce que c'est une espèce de grosse pelote qui inclut à la fois un certain nombre de procédures qui sont quand même vraiment précieuses pour garder une forme de lucidité et d'esprit critique, mais en même temps, c'est complètement mélangé avec plein de choses qui relèvent purement et simplement de la prise de pouvoir. Et de qualifier quelque chose d'irrationnel, c'est une manière de le discréditer, parfois même sans avoir à l'examiner. Alors qu'effectivement, dans toutes ces histoires de déesses, de spiritualité, etc. Donc voilà, je pense que j'avais été un peu préparée à accueillir calmement ce genre de choses par mes années de yoga, où on entend quand même vraiment plein de choses qui au début sont bizarres ou paraissent vraiment bizarres. Et en plus, j'ai fait des études de philo, mais en fait, j'ai toujours été très littéraire. Enfin, j'ai toujours hésité entre les deux. Je comprends parfaitement qu'on puisse avoir un rapport poétique et sensoriel au monde. Je fais de la musique, etc., de la danse. Donc, j'avais pas non plus des œillères complètement fermées.
Mais sauf que ça rentre pas dans le logiciel philosophique, en fait, toutes ces choses-là.
Rarement. Après, en philo, il ne faut pas non plus caricaturer. Et moi, il se trouve que, par exemple, les auteurs sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'est des auteurs qui critiquent la rationalité. Et bon, qui sont des philosophes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Nietzsche. J'ai beaucoup travaillé sur un philosophe contemporain qui s'appelle Sloterdijk. J'ai fait mon master sur Nietzsche et Sloterdijk. Hegel, c'est un rationaliste, mais qui en même temps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Hegel aussi, qui dépasse complètement ce qu'il appelle la logique d'entendement, c'est-à-dire en fait l'usage justement fermé et binaire de la raison, et qui cherche des usages complètement dialectiques qu'on pourrait des fois qualifier de presque irrationnels ou à partir de critères un peu stricts. Il y a aussi chez les philosophes, enfin chez certains, ils ne sont pas tous rationalistes. Il y a aussi une critique de la rationalité. Nietzsche, il a énormément justement... c'est un philosophe et pourtant il met en un certain sens la danse, la musique, la vie au-dessus de la rationalité intellectuelle. Par exemple, il parle tout le temps de la grande raison du corps. Il dit qu'il faut écouter la grande raison du corps, qu'il oppose à la petite raison de l'intellect. Mais il se trouve que ce qui était nouveau pour moi chez les écoféministes, c'est que ça prend des formes qui sont très concrètes. Donc effectivement, dans des rituels, dans des pratiques spirituelles individuelles ou collectives ou même planétaires. Et que ça, effectivement, c'était assez... c'est-à-dire, j'étais prête à... Et ça faisait longtemps que je déconstruisais l'hégémonie de la raison dans ma tête et dans des livres et tout ça. Mais effectivement, de là à aller faire des rituels dans des clairières ou prier la déesse ou célébrer la pleine lune, etc. Ça, c'était vraiment une nouveauté et une transformation.
Et donc, les écoféministes, elles critiquent vraiment tout ça. Ça permet aussi, dans les pratiques et tout, de concrètement expérimenter le monde de façon différente. Vous, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes allée dans les Cévennes, mais aussi quand vous faites du yoga, mais aussi quand vous êtes allée en Inde à faire un peu de permaculture chez Vandana Shiva. Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris dans votre corps, dans votre... en quoi ça a permis de créer un autre rapport au monde, en fait?
Alors, je pense que je suis que au début... Enfin, il y a déjà énormément de choses que ça a changé en moi, mais je pense que c'est pas fini. Je me rendais pas compte, en fait, que j'étais effectivement prise dans un mode de vie, des aspirations et des valeurs assez androcentriques. J'avais tendance à considérer que c'était quand même plus la classe de écrire un livre que de faire des bébés ou de m'occuper d'une maison, enfin de faire des trucs de fille, quoi. Je me suis rendu compte en fait de à quel point je plaçais mes valeurs et mes aspirations vraiment dans la sphère de ce qui, d'après les écoféministes, est associé au masculin. Donc l'intellect, et puis au-delà de ça en fait, ce qui relève du domaine culturel. Et que finalement, tout ce qui est la réalité immanente, le quotidien, les tâches domestiques, le corps, et même la sensibilité, les émotions, etc., c'était des trucs que je ne valorisais pas particulièrement et auxquels je ne donnais pas beaucoup de place dans ma vie. Voilà, je ne suis pas du tout transhumaniste ou post-humaniste ou je n'ai pas envie d'habiter sur Mars, etc., mais que, en fait, on n'est pas non plus éduqués comme étant vraiment des terriens, capables d'observer la Terre, de l'écouter, de se sentir y appartenir, de sentir autant ce qui se passe dans notre corps et dans nos émotions que ce qui se passe dans notre mental, etc. Et que finalement, ça nous donne un rapport au réel qui est assez pauvre et qui, je pense, chez... Bon, c'est un peu personnel, mais je pense que c'est aussi des analyses qui sont valables assez, de façon assez répandue, qui, chez moi, généraient un peu une sorte de fond dépressif, quoi, de spleen. C'est ce que les écoféminismes appellent le sans-abrisme existentiel, le existential homelessness. Et en fait, je crois qu'on est assez formaté comme ça. Voilà, que ça reste très abstrait, l'idée de être un être vivant, appartenir à la Terre, participer à sa régénération, etc. Et qu'en fait, bon, il y a des moments où j'ai cru que j'allais... Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas pas maintenant. J'ai cru un moment que j'allais vivre réellement en autonomie.
Ah ouais, moi aussi j'ai cru.
D'une façon qui était plus éco-macho qu'éco-féministe, parce que c'était voilà, avec un mec qui vit en autonomie depuis 25 ans, mais qui est... un patriarche splendide, mais voilà.
Et si vous en parlez un petit moment dans
J'en parle deux pages, ouais.
Et moi, j'ai cru que j'allais vivre toute ma vie dans une communauté autogérée qui était très connectée au monde et à la nature, et quand je m'occupais des chèvres, là. Et,
ouais.
Et c'était génial, ça a changé ma vie, mais effectivement, je ne suis pas restée. Mais en tout cas, je crois que je sens ça et que c'est très important aussi de dire oui, bah, en fait... savoir prendre soin des animaux, être capable de nommer les plantes autour de soi, de savoir de quoi elles ont besoin, de savoir nommer des oiseaux, de savoir reconnaître les chants d'oiseaux, de savoir faire pousser des trucs et tout. En fait, tout ça, c'est important.
Oui,
c'est...
D'observer, d'être attentif, et que c'est un apprentissage. Enfin, je me souviens, bah justement, chez cet homme des collines, la première fois que j'ai planté une graine de radis, en fait, ça m'a fait une impression mais hallucinante parce que j'ai mangé 1000 fois dans ma vie des radis. Et j'avais la graine de radis dans ma main, j'étais là, putain, je savais pas à quoi ça ressemblait une graine de radis. Et je lui posais plein de questions, mais il faut la planter comment, j'en mets combien, faut arroser comment. Et je me disais, mais t'es d'une ignorance, genre tu peux développer plein de trucs sur le doublé empirico-transcendantal chez Kant, etc. Mais la graine de radis et comment tu l'as fait pousser, t'es là comme une débile, alors que c'est quand même un truc, mais... humain et animal et vivant totalement fondamental. Enfin, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer.
Et de s'abriter. Et on ne sait rien construire, on ne sait pas où trouver de l'eau, on ne sait pas faire du feu et on ne sait pas faire plein de choses. Voilà, ou de même, on ne connaît pas les différentes parties de son corps. C'est quand même des choses qui sont très, très importantes. Donc, ça vous a raccroché au monde. C'est aussi ce que disent les écoféministes. En fait, non, l'espace autour de nous n'est pas vide. Non, on n'est pas du tout seul, en fait. En fait, si on commence à faire attention au... Rien que cette pensée qui est assez vertigineuse, il y a des graines partout, tout le temps, qui sont des potentialités de plantes et tout. C'est vrai que c'est fou. Ou alors, il y a des créatures vivantes absolument partout, en fait, y compris
et
dans nos villes.
À l'intérieur de nous aussi, il y en a tellement, tellement, tellement de petits micro-organismes, etc. Et c'est vrai que ça, justement, cette conscience que tout est vivant, que, comme vous le disiez, on n'est pas seul et que c'est des savoir-faire, un mode de conscience que peut-être on peut ressusciter ou auquel on peut se connecter à la fois existentiellement, politiquement. Enfin, je pense quelque chose qui était un peu déprimant aussi dans les décennies dans lesquelles j'ai grandi, c'est cette impression un peu d'absence d'horizon politique, ou bien que l'horizon politique présenté comme désirable, ben moi, je ne le trouvais pas du tout désirable, mais en fait, il n'y en avait pas d'autres à disposition qui m'enthousiasment. Et là, dans l'écoféminisme, c'est vrai que malgré, voilà, j'ai une tendance à chercher la petite bête, je fais de la philo, je dis oui, ça, c'est pas vrai, gna gna gna, mais que malgré ça, en fait, je trouve que ça ouvre des horizons politique, collectif, personnel, existentiel, pédagogique, de choses qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de créer, qui sont hyper enthousiasmantes, quoi. Je me sens plus du tout dans cette espèce d'humeur fin de siècle. Là, voilà, c'est un début de siècle.
Même s'il y a une grande conscience de la destruction écologique, oui. Et tout, c'est quand même des pensées et des pratiques qui donnent beaucoup d'espoir et de se dire bon, on va faire avec
en
ça.
En fait, il y a l'idée de prendre le parti de la vie. Et qu'effectivement, il y a plein de choses qui donnent envie de prendre le parti de la mort ou en tout cas de se dire que voilà, c'est foutu, tout va être détruit. Mes élèves, par exemple, souvent, je vois que leur conscience écologique, pendant 5 minutes, ils me sortent le discours sur le développement durable parce qu'ils savent que c'est ça qu'il faut dire. Et puis après, ils m'expliquent que quand même, bon, en fait, vu que la planète va être détruite et on va tous crever, il n'y a pas de raison de faire attention et de moins consommer ou je sais pas quoi.
Ils ont 17 ans.
Oui. Et chez les écoféministes, il y a aussi l'idée que, bah oui, on peut vivre et ces émotions-là, elles les travaillent en fait, elles les occultent pas du tout. C'est pas un truc cuicui les petits oiseaux. Enfin, il y a l'idée que, oui, il y a du désespoir, il y a des raisons objectives d'être en colère, de s'inquiéter, mais que on peut aussi faire le choix. Qui est peut-être un choix un peu fou, mais qui en fait est la seule posture existentielle qui permet de vivre, il me semble, de voir au contraire qu'est-ce qu'on peut retisser, qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut se réapproprier, plutôt que céder un peu à la facilité du cynisme. Et en fait, voilà, la posture cynique, en fait, elle est tenable tant qu'on n'essaye pas de faire partie de la vie et tant qu'on ne se dit pas qu'on va faire des enfants ou qu'on va transmettre, pas forcément à ses propres enfants, mais voilà, éduquer d'autres personnes ou participer, transmettre. Mais en fait, à partir du moment où on se dit que soit on veut des enfants, soit on veut participer et transmettre, et on ne peut plus, en fait, rester ad vitam aeternam dans cette posture-là. Enfin, où on peut, mais à ce moment-là, je vois pas ce qu'on a à donner, quoi.
Bah si, on peut dire, je vais favoriser mes propres enfants. Voilà, je vais faire beaucoup d'argent et je vais les mettre à l'abri. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Je vais faire en sorte que eux survivent, tant pis pour les autres. Je vais faire en sorte que, tant pis, tout sera mort et tout, mais nous, on sera sur une île. Ou alors, la science trouvera une solution. On met tout son espoir dans la science.
Oui, ou alors, c'est vrai que ça me paraît tellement illusoire que j'arrive pas.
Non, mais il y a
pas.
Plein de gens qui réfléchissent comme ça.
Ouais.
Je vous remercie beaucoup.
Mais merci à vous.
Pour tout ce que vous avez dit, il faut que je pose la dernière question traditionnelle de l'émission qui est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeuristes. Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, peut-être ça peut être une posture de yoga aussi.
Alors, est-ce que j'ai le droit de dire un truc qu'on peut regarder, un truc qu'on peut faire?
Bien sûr.
Ah.
Tout.
Alors, à regarder Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Ça a participé à m'intéresser à l'écoféminisme avant même de rencontrer le mouvement. Et à faire, tout au long du XXe siècle, en fait, il y a beaucoup de danseuses et chorégraphes qui ont développé des techniques de danse libre. Donc, par exemple, Isadora Duncan ou Anna Alprin ou Gabrielle Roth. Il y a plein d'ateliers un peu partout en France où on peut pratiquer ces différentes techniques de mouvement libre. C'est, il me semble, justement, une des manières aussi de sentir à l'intérieur de soi à quel point, au début, à quel point on manque de liberté. Et à quel point tout est à réinventer justement dans la façon de se réapproprier une liberté pas conçue comme quelque chose qu'on conquiert en s'arrachant au corps, mais au contraire comme quelque chose qu'on ressent de l'intérieur du corps. Et souvent dans ces ateliers, il y a une majorité de femmes. Mais quand c'est mixte, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir... à quel point ça peut transformer le regard des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes et de qu'est-ce que c'est la sensualité, de pouvoir, par exemple, pour des hommes, voir ou même toucher des femmes en train de se faire plaisir en dansant, mais d'une façon qui soit justement complètement sortie du carcan et du côté un peu oppressant et stéréotypé du rapport sensuel hétéro habituel.
Et pour les femmes, de toucher et de voir des hommes qui quoi, qui intègrent des mouvements plus codés comme féminins, qui intègrent des mouvements...
Qui apprennent à respecter la sensualité des femmes sans... Enfin, ça transforme complètement ce rapport de sujet-objet qu'il y a assez souvent dans la danse et dans la vie.
Hein.
Voilà, ouais.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
C'était le dernier épisode de cette troisième saison des Couilles sur la table. Chers auditeurices, je vous souhaite un très bel été 2020. Je vous souhaite d'avoir du temps pour lire, pour écouter de la musique, ou écouter le silence ou des podcasts, et pour écouter les autres êtres vivants autour de vous, qu'ils soient humains ou non humains. Je vous souhaite d'avoir du temps pour dormir aussi. Moi, je compte bien faire tout ça. Je vais tenter de me bricoler une façon écoféministe de vivre cet été. Je retourne dans la petite maison dans le Berry où j'ai écrit mon livre l'été dernier. Je vais regarder les fourmis, escalader les cerisiers, parler aux chats et écrire et peut-être faire de la danse libre. Merci beaucoup pour toutes vos lettres et vos réactions que vous postez sur les réseaux sociaux et à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio que je lis toujours attentivement. Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Cet épisode a été enregistré par Adèle Itel Elmadani, réalisé par Quentin Bresson et édité par Camille Regache. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.